Des indices, une agression, des chocs, c'est la règle de trois de Marc Greenstein. Raconter sa vie consiste à collecter les quelques indices qu'il laisse sur sa route. Par exemple, sa biographie en quatrième de couverture de son dernier livre qui tient sur deux phrases. Marc Greenstein, né en 1961, est éditeur. Il est l'auteur d'un premier roman à l'anglaise. Sur Internet, deux ou trois bribes d'informations permettent d'ajouter des pièces au puzzle. Directeur éditorial de Calman Levy jusqu'en 2003, il rejoint La Martinière, puis Panama. Maison où il réalise des coups éditoriaux comme « Madame, Monsieur, bonsoir », un livre écrit par cinq journalistes de TF1 qui dévoilent les coulisses du 20h. En 2009, il crée les éditions Nova, édite « Ma vie, mon œuvre, mon scooter », les faux mémoires du jeune Jean Sarkozy. À l'occasion, il participe à une émission de France Inter.
C'est en effet un pastiche de la langue de Jean Sarkozy qui elle-même est en grande partie empruntée à la langue de Nicolas Sarkozy.
Dernier indice biographique disponible sur le net, l'agression dont il est victime dans la nuit du 11 au 12 septembre 2015. Après avoir édité le système Soral, enquête sur un facho business, livre consacré au réseau et aux activités lucratives de l'idéologue d'extrême droite Alain Soral, Marc Greenstein est pris à partie devant chez lui. Un homme ivre le traite de sale juif et le blesse en lui jetant une bouteille en verre sur le crâne. Son agresseur est condamné à 6 mois de prison avec sursis. Dès les premières pages de son roman intitulé Choc, le lecteur se demande si Marc Greenstein se souvient de ces quelques éléments. Pendant plus de 50 ans, j'ai été mélancolique, écrit-il. Depuis ce demi-siècle, je suis amnésique. Traité pour une dépression en 2013, il a été interné 6 mois à l'hôpital psychiatrique du Kremlin-Bicêtre et y a subi des électrochocs semblables à celui-ci.
Il y a tout naturellement des contractions, hein, mais qui sont tout à fait mesurées et contrôlées.
Cette thérapie assure lui des effets dramatiques. Page 98, il précise, tout a basculé entre 51 ans et 7 mois et 51 ans et 9 mois. L'Alzheimer a frappé en traître sans signe annonciateur, juste au moment des chocs. Dans ce livre, en agrégeant ses notes et ses souvenirs flous, Marc Greenstein reconstitue authentiquement un parcours aux contours incertains.
Voilà, ça c'est le livre. Ça a dû être un sacré chemin de croix d'écrire ce livre en utilisant les milliers de notes que vous aviez pris.
J'avais une grande masse de carnets.
Oui.
J'avais ensuite mis une bonne partie de ces notes sur mon ordinateur, sur mon téléphone, et donc je les ai fait converger. Ouais. Je m'étais interdit de travailler avec un en cherchant sur Internet des renseignements divers, parce que ça aurait été combler les trous de mémoire très facilement. Et donc,
tricher. Vous dites que je l'ai écrit sous sérum de vérité.
Voilà, et donc j'ai pris parti de n'utiliser que ces souvenirs et d'aller dans les bibliothèques si j'avais besoin de documentation. Voilà.
Pourquoi avez-vous voulu subir des électrochocs en 2013? Vous dites on subit ces électrochocs, oui. Mais qu'est-ce qui vous a pris de vouloir les subir?
Alors, ma volonté n'était pas vraiment de les subir, c'est-à-dire que je suis rentré à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre pour un épisode mélancolique, qu'on va dire aigu, qui s'est traduit par une grève de la faim, bon. Qui a duré et qui semble avoir mis en danger ma santé et peut-être mon existence, je ne sais pas, c'est pas très très clair de la part des médecins eux-mêmes. Et là, on m'a dit, bon, là, ça devient très grave, il faut qu'on vous fasse des chocs, parce que les chocs sont réputés être une thérapie d'élection pour les conduites de refus. Ou si vous refusez les chocs, on vous enverra à Esquirol. Alors Esquirol, pour moi, c'était pas un très très bon hôpital.
C'est quoi Esquirol?
C'est l'ancien Charenton en fait.
Ouais.
Et toute ma jeunesse, j'ai entendu ma mère qui disait si tu vas finir à Charenton. Donc là, je me suis dit oh là, ouais. J'ai pas envie de retourner, d'aller à Charenton.
De retourner là-bas.
Et puis, oui, et on m'a dit surtout, on m'a dit là-bas, vous serez attaché, on vous nourrira de force. Alors non, donc j'avais le choix entre la contention, le tubage gastrique
et les chocs.
Donc,
bon, vous avez pris les chocs.
J'ai accepté les chocs.
Ouais. Benjamin.
Vous riez de manière ironique quand vous regardez votre portrait avec ce médecin qui justifiait les électrochocs. Vous pensez qu'aujourd'hui il dirait la même chose? C'est ça qui vous...
Ah mais je pense qu'il y a de la part des psychiatres une cécité totale à l'égard des effets secondaires des chocs. C'est-à-dire que si vous dites j'ai des troubles de mémoire suite au choc, on va vous dire, un, vous n'êtes pas tout à fait guéri. Donc en fait, vos troubles de mémoire, soit ils sont simulés, soit ils proviennent d'une dépression qui n'est pas encore complètement guérie. Mmh. Vous prenez des médicaments qui ont eux-mêmes de fortes conséquences amnésiantes. Mmh. Donc tout va bien. Et puis par ailleurs, les effets des chocs eux-mêmes sont toujours considérés comme dans toute la littérature. Mmh. Dans la littérature scientifique sérieuse, ils sont considérés comme graves et pérennes. Mais la traduction qu'en font les psychiatres hospitaliers, c'est qu'en fait, ils sont brefs. Et peu important. Voilà. Donc,
Marc Greenstein, Antonin Artaud, qui a subi des électrochocs, le poète, le dessinateur et l'acteur, écrivait en 1945 « L'électrochoc me désespère, il m'enlève la mémoire, il fait de moi un absent qui se connaît absent ». C'est ça le plus douloureux dans votre condition, c'est de savoir que votre mémoire fuit.
C'est de savoir que ma mémoire... J'ai pas la pleine conscience en permanence que ma mémoire fuit. Lors de certains, il y a des situations où ça se matérialise et où là, ça peut devenir sinon dramatique. C'est rarement dramatique d'ailleurs, mais parfois extrêmement angoissant.
Embarrassant dans la vie, vous oubliez les codes, votre mémoire visuelle s'est dissoute.
Là, vous comprenez que vous vivez en fait dans un monde qui est un monde où le contrôle d'identité est devenu permanent, c'est les codes secrets, les mots de passe des ordinateurs, et où ce ne sont plus les documents d'identité traditionnels qui permettent de faire la preuve de votre identité. Donc c'est pas le passeport, c'est pratique. Il est dépositaire de votre mémoire et de vos signes distinctifs. Oui. Mais non, il faut se souvenir des codes, il faut se souvenir des noms.
Et ça, vous avez oublié.
Ça, je les oublie tout le temps. C'est-à-dire, moi, je passe ma vie à dire code oublié. Oui. Et parfois, on vous dit. Attendez, ça fait on a repéré 17 demandes de votre part en l'espace de 24 heures. Il y a un problème. Merci de nous indiquer quels étaient les derniers codes que vous avez utilisés. Alors là, vous savez que c'est pas possible.
C'est impossible.
C'est bloqué.
Marc Greenstein, on va évoquer avec Sonia l'intelligence artificielle qui se vit comme une sorte d'élément salvateur pour soigner certaines maladies.
Oui, cette intelligence artificielle permettra-t-elle un jour de soigner nos cerveaux? Il y en a un qui en est convaincu, c'est Elon Musk, le célèbre entrepreneur sud-africain. Plus que ça, même, il y travaille activement. Le patron de Tesla et SpaceX ne se contente pas de fabriquer les engins roulants et volants du futur. Il travaille depuis quelques années maintenant avec sa start-up Neuralink à la mise au point d'une interface cerveau-machine. Imaginez une puce directement implantée dans le cerveau qui permettrait de le stimuler ou bien de réparer certains dégâts. Cette technologie pourrait même, selon Elon Musk, de soigner certaines maladies mentales comme la schizophrénie ou contrer les effets du vieillissement sur la mémoire. Des tests ont déjà été menés sur des singes. On nous annonce des tests sur les humains pour l'année prochaine. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce futur fait d'interface cerveau-machine?
Moi, je crois que c'est le contraire absolu de la psychiatrie, donc j'en pense beaucoup bien. C'est-à-dire que le problème de la psychiatrie, c'est qu'elle ne va pas au-delà des apparences. Elle a une visibilité au sens propre de ce que c'est qu'un cerveau, des mécanismes cérébraux, de ce que c'est que les échanges entre neurones, qui est nul. Là, tout ce qui contribue à une meilleure connaissance des phénomènes neuronaux, de la vie psychique, mais considérée dans sa matérialité, je trouve que c'est très impressionnant et favorable.
C'est-à-dire que vous accepteriez, par exemple, d'être le cobaye pour ceci?
J'ai un problème depuis les électrochocs avec tout ce qui relève de l'hypothèse et du cobaye, parce que comme aucun psychiatre n'est en mesure de dire quel est le mode d'action des chocs, on vous dit, on ne connaît pas le mode d'action. Soit on a des métaphores complètement stupides, comme c'est de l'engrais pour les neurones. L'engrais pour les neurones ou la fameuse dissolution-reconstruction. Ça dissout et ça reconstruit.
Bon, oui. Voilà.
Donc, et on vous dit, mais c'est pas grave, on ne sait pas comment ça marche, mais on sait que ça marche.
Il y a 30 000 personnes par an qui subissent des électrochocs, à peu près, en France?
J'ai pas de chiffres.
C'est des chiffres qu'on a vus.
Il y en a de plus en plus. On évoquait la liste d'un célèbre hebdomadaire qui publie chaque année son palmarès des hôpitaux et des cliniques. Mm-hmm. On voit qu'en psychiatrie, en quelques années, les deux tiers des hôpitaux se sont remis à pratiquent des électrochocs. Ce n'était pas le cas. Ils avaient cessé. Dans les années 80, 90, 2000, ne pratiquaient plus les électrochocs que les hôpitaux, qu'on va dire, un peu très biologisants, qui pensaient qu'il y avait un substrat biologique très fort, qui était Sainte-Anne, probablement créé comme un recette, mais ça s'est ensuite à nouveau répandu en France.
Marc Greenstein, une dernière question. La musique ne vous fait plus rien. C'est une des conséquences de ces électrochocs et de cette dissolution de la mémoire?
Alors ça, c'est un... quelque chose de très, 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 très grave pour moi, c'est pas qu'elle ne fait plus rien, c'est qu'en fait, je suis pas musicien.
Mais mélomane, oui.
J'écoutais beaucoup de musique et j'avais une grande mémoire musicale. Donc j'étais capable de siffler, de chanter. Donc j'avais une vie musicale.
Ouais.
Comme au cinéma, si vous voulez. Ma vie était tout le temps mise en musique. Et ça, je l'ai perdu. Je suis incapable de me souvenir d'aucun morceau de musique.
Rien.
Bon, la chanson, j'en écoutais assez peu, en fait. Ouais. Mais. Alors, il se trouve que j'écoutais beaucoup de musique contemporaine non tonale, mais je n'écoute plus que ça, parce que pour le coup, le problème de mémorisation n'existe quasiment pas. Donc, la musique a disparu de ma vie quotidienne, on va dire.
Et la mémoire visuelle?
Alors, la mémoire visuelle, c'est surtout un peu la mémoire des visages, mais surtout la mémoire des lieux. Une anecdote, c'est que tout à l'heure, vous m'avez envoyé gentiment un taxi, et j'étais très en avance, donc j'ai demandé de m'arrêter sur une place où il y avait un café. Il m'a laissé peut-être à 300 mètres d'ici. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver mon chemin, je dois l'avouer, j'ai dû demander à deux ou trois personnes. Et je disais, il y a une chaîne d'aide qui s'est constituée pour vous mener jusqu'ici.
Voilà. Eh bien, on la remercie. Toute notre gratitude à la chaîne d'aide qui nous a permis de recueillir votre témoignage, Marc Greenstein. Choc, un roman qui mérite son nom. C'est ce que je voulais que je dise.